Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
François Pinet.
Il est 18h, vous êtes sur RMC à l'écoute de l'Intégral Sport. Ravi de vous retrouver. Je vous rappelle qu'Annemiek van Vleuten vient de remporter le Tour de France femme. On en reparlera d'ailleurs dans le RMC Sport Show avec Arnaud Valadon à partir de 19h. Dans un instant, on reviendra aussi sur le Grand Prix de Formule 1 avec Jean-Luc Roy, Grand Prix de Hongrie remporté par Max Verstappen. Et puis, avant de retrouver Caroline Garcia en direct sur RMC après sa victoire à Varsovie, le coup d'envoi d'Angleterre-Allemagne, c'est parti pour la finale de l'Euro féminin à Wembley. Lounis est avec nous. Salut Lounis.
Salut, bonjour à tous. C'est parti pour cette finale entre l'Allemagne, 8 fois championne d'Europe, et l'Angleterre qui joue chez elle dans un stade de Wembley plein. C'est une affluence record. 84 000 personnes sont présentes dans le stade.
Merci beaucoup Lounis. On va suivre bien sûr de très près ce Angleterre-Allemagne, finale donc de l'Euro, finale de très très haut niveau. On vous donnera également le score de Marseille-Milan, match qui a débuté, match de gala entre les Marseillais et les Milanais. Mais on va retrouver tout de suite Caroline Garcia qui est en direct avec nous sur RMC. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous après ta victoire donc à Varsovie contre la Roumaine Anna Bogdan, victoire en 2-7. Juste avant, j'accueille Eric Salio qui est avec nous également, qui ne pouvait pas manquer ça. Salut Eric.
Bonsoir Caroline, mais encore bravo. Oui.
Félicitations Caroline.
C'était intense.
Une belle victoire Caroline. Parfait. Pour terminer, une belle semaine. C'était une vraie belle semaine du côté de Varsovie.
Ouais. Oui, c'est sûr, c'était une semaine intense avec des matchs très différents les uns des autres et un gros match contre Iga Swiatek en quart. Et après, il y a eu un turnaround assez rapide parce qu'avec la pluie, ils nous ont fait jouer hyper tôt le lendemain en demi-finale. Donc, ça n'a pas été facile un peu à accepter la programmation. Et au final, ça s'est bien arrangé et aujourd'hui, on a réussi à jouer malgré la pluie et je suis vraiment super contente de remporter un nouveau titre.
Comment ça se fait, Caroline, que tu te sentes aussi bien à ce moment-là de la saison? On rappelle qu'il y a un mois, tu as remporté aussi sur gazon. Hein, là, c'était sur terre battue, mais sur gazon, un autre titre. Ouais. Tu te sens très, très bien en ce moment. Comment tu expliques ça?
Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai plutôt bien commencé l'année. J'ai eu des matchs, des bons résultats contre des bonnes joueuses, des bons matchs. Mais j'avais généralement un peu de mal à enchaîner. J'ai eu des pépins physiques qui m'empêchaient de m'entraîner comme je voulais. Du coup, c'était difficile pour moi d'enchaîner les matchs. Après Miami, on a coupé quasiment 2 mois. On a repris juste avant Roland-Garros. Bien meilleure forme avec des meilleures sensations et petit à petit je me suis sentie mieux en mieux déjà sur le terrain, moins de douleur, donc forcément ça aide pour mon jeu. Et après voilà, c'est des déclics après certains matchs où tu te rends compte que voilà, quand tu vas vers l'avant ça paye plus, tu vas au filet, tu volailles bien et en plus je prends plaisir à produire ce jeu là à faire des coups gagnants, aller au filet. Et voilà, chaque match est différent et chaque match j'ai la même mentalité et avec l'équipe on a bien continué à travailler, bien s'adapter aussi sur la transition sur terre battue après Wimbledon qui a pas toujours été facile, mais ça a été des bons matchs et j'ai bien progressé sur cette semaine et je suis vraiment contente.
Caroline Garcia qui a remporté donc le tournoi de Varsovie contre Bogdan 6-4, 6-1 est en direct sur RMC. Eric.
Oui, moi je voulais revenir, Caro, sur le petit chef-d'œuvre de jeudi contre Swiatek, parce que tu lui as roulé dessus pendant une grosse demi-heure et on avait le sentiment que voilà, tu pratiquais le jeu que tu avais envie de pratiquer en étant ultra agressive et que tu nous avais déjà parlé à Wimbledon et que ça se met vraiment en application et que quand tu joues comme ça, bah écoute, tu as un potentiel énorme et ça tu le sais.
Merci. Bah, c'est vrai que ces derniers matchs, depuis Roland-Garros, depuis que je suis revenue, c'est vraiment un jeu très agressif, qui est très porté vers l'avant. Forcément, sur le gazon, ça s'y prête plus. Tu peux monter plus loin, tu sais plus d'ace, c'est plus difficile de contrer, de passer. Donc, j'avais bien pu installer mon jeu. Quand je suis arrivée un peu sur terre battue, sur les terres battues plus lentes, ou le soir à Palerme, des fois c'était un peu difficile de s'adapter, d'accepter que l'autre te contre plus facilement, etc. Et quand on est arrivé ici à Varsovie, premier tour, c'était du mauvais tennis, quoi. C'était tendu, il se passait rien. Et contre Swiatek, c'était vraiment un beau challenge pour moi. C'était un match où voilà, la seule chance que j'avais de gagner, c'était en jouant mon jeu, en lui mettant la pression en permanence. Et peut-être ça allait payer, j'allais gagner, peut-être pas, mais au moins je savais qu'est-ce que j'avais à faire, à progresser. Et voilà, ça a bien marché, je l'ai pris tout de suite à la gorge, sous pression. Et mais bon, quand Stéphie là, tu vois que si tu relâches un tout petit peu, elle revient et elle gagne 6-1 finalement le deuxième set. Mais j'avais qu'une envie, c'était de continuer à faire ça, vraiment lui mettre la pression, d'aller chercher mon match. Et je l'ai fait en produisant ce jeu agressif, en allant vers l'avant. Et c'était un super match et j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer.
Et à le gagner aussi, bien sûr, parce que c'est important, ouais. Quand même. Deux ans que vous n'aviez pas battu, tu n'avais pas battu une top 10. Hein, donc j'imagine okay. que c'est un match quand même qui peut servir pour la suite de ta carrière. C'est un match qui peut être déclic. Évidemment, il y a cette finale contre Bogdan, mais tu étais supérieur. Mm-hmm. Là, contre Swiatek, voilà, c'est un match qui peut te faire prendre conscience que tu peux aller encore très très loin.
Oui, forcément, c'est des matchs vraiment importants de voilà, contre les top 10, contre une numéro 1 mondiale qui a gagné énormément de matchs cette année. Ça me montre à moi-même en fait déjà le chemin que je dois continuer à prendre avec l'équipe, le chemin qu'on doit continuer à travailler, sur quoi on doit mettre l'accent encore et toujours pour continuer à progresser là-dessus. Et ça donne des ambitions de dire que je bats des top 20, top 10, une numéro 1 mondiale. Donc à moi de mettre toutes les pièces ensemble, des matchs après match pour espérer continuer à bien jouer dans des gros tournois.
Eric, on est avec Caroline Garcia, je le rappelle, en direct sur RMC, ouais. Avec Eric Salio.
J'ai bien entendu, je crois que tu l'as dit au moment de la petite cérémonie, il y a eu des moments difficiles sur le plan physique et c'est vrai que depuis quelques semaines, on te voit avec des bandages un peu partout. Quel est le plan avant de s'envoler pour les États-Unis? On prend son temps avant de prendre l'avion ou alors non, on reste dans la confiance, dans la continuité? Quel va être ton programme en soulignant que normalement cette victoire te permettra d'être tête de série à Flushing Meadows? C'est un petit soulagement en plus. Donc quel est le plan avant les States?
Le plan à la base, c'était que, enfin, je suis inscrite au CAIF de Toronto. J'avais demandé wildcard, mais je l'ai pas eu. Donc du coup, je suis qualif à Toronto. Je pense qu'on va se poser avec l'équipe et essayer de voir ça. Mais je pense que ça va être un petit peu précipité. Il faut bien récupérer. Ça, la fin de saison sur terre battue, les adducteurs commencent à être un petit peu fatigués. Donc ça sert à rien de se précipiter pour dire d'aller faire des matchs. Et après, c'est Cincinnati, Cleveland, US Open. Donc ça fait un moment que j'ai pas joué sur dur depuis mars. Donc je pense que c'est bien de prendre un petit peu de temps pour bien se préparer, remettre le jeu en place et d'aller sur le court en étant à 100% physiquement. Donc ça va être un beau challenge de rechanger de surface. Ça fait longtemps que j'ai pas joué sur dur, donc je dois dire que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne.
Oui, mais tu gagnes partout. T'as gagné sur gazon, on l'a dit, et maintenant sur terre battue. Donc c'est plutôt pas mal. Et en ce moment, ça se passe très bien pour toi, Caroline. Merci beaucoup d'être venue au micro d'RMC. Merci beaucoup après cette victoire à Varsovie. Et on espère évidemment que la suite sera aussi belle qu'en ce moment. Merci, Eric. Belle performance de Caroline Garcia. Elle a battu Swiatek, on l'a dit, en quart de finale. Et puis, elle est allée au bout de ce tournoi à Varsovie. Merci, Eric. À très bientôt pour reparler tennis sur RMC. On va faire un point sur la finale de l'Euro féminin que l'on suit en direct avec l'UNIS, Angleterre, Allemagne. Avec un gros coup dur, on ne l'a pas dit lors du coup d'envoi, mais un gros coup dur pour les Allemandes, l'UNIS. Avec le micro.
0-0, 8e minute de jeu entre l'Angleterre et l'Allemagne dans cette finale. Et oui, gros coup dur puisque Alexandra Popp, la meilleure joueuse de cette formation allemande, celle qui nous a éliminés, qui a marqué le doublé contre la France, est absente et elle souffre d'une blessure musculaire à l'échauffement. Et du coup, c'est Schlager qui a pris sa place au poste de numéro 9. Côté anglais, c'est la même compo, même 11 qui a commencé contre la Suède. Succès 4-0 qui est aligné ce soir en finale.
Eh bien, on va suivre ce match, évidemment, 0-0 également entre Marseille et Milan. Match de gala, match de préparation devant 60 000 personnes au Vélodrome. Dans un instant, on va revenir sur le Grand Prix de Hongrie avec Jean-Luc Roy, qui, Jean-Luc, on le dira tout à l'heure, mais avait parié sur la victoire de Caroline Garcia en 2-7. Donc je rends à César ce qui appartient à Jean-Luc. Allez, à tout de suite pour parler F1 sur RMC dans l'intégrale sport. À tout de suite.
RMC. RMC Intégral Sport,
François Pinet.
Il est 18h11 sur RMC, on est dans l'Intégral Sport. Je vous rappelle qu'à 19h, vous retrouverez Anouk Verlaidon pour le RMC Sport Show. Et à 20h, coup d'envoi de Paris Saint-Germain, Nantes. C'est l'événement de la soirée sur RMC. Lancement, en quelque sorte, de cette saison de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et Nantes qui s'affrontent à Tel Aviv pour le trophée des champions. En ce moment, 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne en finale de l'Euro féminin. On y reviendra dans un instant. 0-0 également entre Marseille et l'AC Milan. Match de préparation avant la reprise de la Ligue 1 pour les Olympiens. Mais d'abord, on va revenir sur le Grand Prix de Hongrie avec Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, salut François.
Jean-Luc qui avait donc vu, puisqu'on était il y a quelques instants avec Caroline Garcia, la victoire en 2-7 de Caroline Garcia face à Bogdan à Varsovie.
Et en moins de 20 jeux.
C'était
ça la cote.
Je ne sais pas pourquoi il parle de Formule 1, parce qu'il est très bon en tennis. Hein.
Non, ça, j'aime beaucoup.
Attention, Eric. Hein. Eric, salut, attention.
C'est mon maître.
Ah bon,
je suis Eric.
C'est ton maître à penser. Bon, Jean-Luc, on va revenir sur ce Grand Prix de Hongrie. 13e étape des championnats du monde de F1. Il y a énormément de choses à dire. Alors, on va prendre le temps d'en parler avec toi. On va écouter également quelques-uns des acteurs clés de cette journée. Dans un instant, on entendra Charles Leclerc. Mais victoire d'abord, rappelons-le, de Max Verstappen. Victoire plutôt inattendue, puisqu'il était quand même 10e sur la grille.
Totalement.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a réussi à aller remporter cette nouvelle victoire précieuse?
Alors, c'est très simple, c'est le meilleur. C'est le meilleur, il a la meilleure équipe et il pilote la meilleure voiture. Alors, c'est simple à dire comme ça, mais sur un tracé réputé pour être celui, à part Monaco, où il est extrêmement difficile de dépasser. Donc, quand on part 10e, j'avoue, moi le premier, je crois que la cote était d'ailleurs très élevée. On en parlait dans les paris RMC à midi, entre midi et 13h. Je n'avais pas du tout misé sur lui et ça me paraissait quasi impossible. Ben, il l'a fait, ils l'ont fait. Il a mené d'abord un Grand Prix absolument formidable, c'est-à-dire que dès le départ, il a pris un départ tout à fait canon. Il a pris deux places d'entrée. Et puis après, je vais te dire, si on prend en lettres, ça veut dire S, on part en soft pour avoir une excellente adhérence. Donc, il prend deux pilotes au départ. Ensuite, on s'arrête au 17e tour. Parce qu'évidemment, tu le sais, avec le réservoir plein, on dégrade les pneumatiques dès l'amorce. Et c'est ça, la bonne stratégie et la science de la course, non seulement du pilote, mais aussi de son équipe. Dès qu'on commence à voir qu'on perd 1-2 dixièmes par secteur, hop, on l'arrête immédiatement. On lui monte les pneumatiques médium. Ouais. Tu sais que, de par le règlement de la Formule 1, tu dois utiliser deux valeurs de gomme, deux qualités de gomme différentes. C'est le règlement. Donc, tu es parti en soft. Tu dois mettre autre chose. On met les médiums et ensuite on l'arrête à nouveau au 38e tour, c'est-à-dire après 21 tours. On lui remet un deuxième train de médium et on gagne deux arrêts. Et donc on passe devant tout le monde parce que de l'autre côté, si on prend Russell, donc le poleman, lui, on est bien parti. On part en soft également pour garder l'avantage. On le conserve. On change au 17e tour également. On monte les médiums. Et puis, on l'arrête au 39e tour, c'est-à-dire un tour après Verstappen. Et à cause de l'arrêt de Verstappen, tu sais, c'est ce qu'on appelle le fameux undercut dans ce cas-là. On lui monte les médiums. Mais évidemment, la Mercedes est un peu moins performante que la Red Bull. Et puis, il faut croire qu'à ce niveau, pour le moment, on va dire que George Russell est un peu moins rapide que Verstappen. Et la différence, elle est là. Donc, c'est un plan magnifiquement exécuté. Et on a eu de la chance jusqu'au bout parce que la pluie qui a menacé pendant une bonne partie du Grand Prix, elle est tombée juste la ligne d'arrivée franchie. Ça aurait pu redistribuer les cartes. Hein, on peut se faire piéger avec une piste qui était humide par endroits dans le dernier tour. Non, c'est le champion du monde en titre. 28e victoire de sa carrière, 8e de la saison, 80 points d'avance au classement général provisoire du championnat.
Ça commence à faire beaucoup là.
C'est énorme. 258 pour Verstappen, 178 seulement pour Charles Leclerc.
Il reste 9 grands prix à disputer et c'est vrai que l'écart est fait avec Max Verstappen. Alors là, c'est le côté positif. Évidemment, ce qu'on va retenir aussi, tu as parlé de stratégie de Red Bull. Parlons de la stratégie de Ferrari. La stratégie de Ferrari emmène les pilotes dans le mur, en quelque sorte, puisque donc Sainz termine 4e et Charles Leclerc termine 6e. Qu'est-ce qui s'est passé chez Ferrari? C'est pas la première fois en plus.
Ah ben non, c'est pas la première fois. C'est-à-dire que ça devient malheureusement habituel. Et donc, je prends une précaution oratoire comme à chaque fois parce que j'adore la Scuderia Ferrari. Tous les fans de sport mécanique respectent infiniment cette équipe. Mais là, je n'arrive pas à comprendre comment on peut se planter systématiquement avec la stratégie à adopter pour Charles Leclerc. Parce qu'il faut bien le dire, là aussi, il était en tête du Grand Prix à un moment. Il maîtrisait bien.
Il fait un super dépassement.
Oui,
pour Leclerc.
Il fait le boulot. Charles, il n'a pas, à part l'erreur du Grand Prix. Grand Prix de France qu'il a totalement assumé, où effectivement il est sorti. Mais là aussi, il y a une raison. On va pas y revenir. On va pas revenir sur le Grand Prix de France. Il y a une raison, c'est que il sait que la stratégie n'est pas la bonne et Verstappen est en train d'essayer de le piéger par l'undercut. Donc dans le dernier tour, en vieux pneus, il attaque et là il en fait un peu trop. Donc là, on en revient à ça. Ben lui, on l'arrête au 23e tour, c'est-à-dire 6 tours plus tard, par exemple, que Russell, Carlos Sainz, ou donc déjà première erreur. Et on a vu, on l'a dit en direct avec Denis Chevrillon, on a vu que les performances commençaient à se dégrader. Pourquoi on l'arrête pas plus tôt? Première question. Bon, il est parti avec les pneumatiques médium, lui, comme Carlos Sainz. Ça, c'est une option qui est pas mauvaise, a priori, parce que je sais bien que la théorie, c'est de l'emmener plus loin, mais ça ne fonctionne pas. Donc, il faut se faire, effectivement, et s'adapter aux circonstances, avoir une stratégie, j'aime bien ce mot, à géométrie variable. Manifestement, on n'est pas capable de le faire. Donc, on lui monte un deuxième train de pneumatique médium. Ça veut dire qu'on se condamne déjà forcément à l'arrêter à nouveau, puisque tu le sais, il faut deux types de gomme. Si on fait médium, médium, on sait qu'il faut l'arrêter à nouveau. Et de surcroît, nous ne sommes qu'au 23e tour sur les 70 à parcourir. Là aussi, on attend le 39e tour pour l'arrêter. Et alors là, inexplicablement, on lui monte les pneumatiques dures. Alors là, on s'est regardé avec Denis, avec Benoît, en disant mais qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi elle est dure à cet endroit? Tout simplement parce qu'on n'a pas poussé le deuxième train de pneumatique médium assez loin pour équiper la machine des softs, parce qu'on a fini par les softs, mais trop tard. Donc il a fait trois arrêts, là où tous ses adversaires, à l'exception des trois derniers du Grand Prix, ne se sont arrêtés que deux fois. Quand tu sais que l'arrêt, ça coûte 20 secondes, ben voilà, si tu l'enlèves 20 secondes à Charles, il termine à 16 secondes du leader. Est-ce que je fais un dessin? Non, il ne pouvait pas gagner, il faut être clair, mais terminer sur le podium.
Au moins deuxième.
Oui, deuxième ou sur le podium.
Là, il termine à la sixième place et c'est dramatique pour Ferrari.
On s'est totalement planté pour ce qui le concerne. Un peu moins pour Carlos Sainz, mais quand même, qui était deuxième sur la grille, qui là aussi a été arrêté, je l'ai dit, au 17e tour. Donc on a fait médium, médium et puis soft. Au moins, lui, il s'est arrêté une fois de moins et il termine quatrième à deux secondes de George Russell. Bon, c'est quand on a les pilotes placés deuxième et troisième sur la grille et qu'on termine seulement quatrième et sixième, ben, on peut parler d'échec. Hein.
Alors on va écouter justement Charles Leclerc, réaction après cet échec de Ferrari, cet échec de stratégie. Écoutons le pilote Ferrari.
C'est comme ça, on regarde course par course, mais très réellement, au bout d'un moment, on peut pas espérer gagner le championnat si on continue à faire des courses comme ça. Donc, je sais pas trop quoi dire. J'espère que la deuxième partie de saison nous sourira un peu plus, mais nous faut qu'on s'améliore.
Je ne sais pas trop quoi dire. Ça, alors cette phrase, elle est terrible. Ah oui. Jean-Luc, je comprends pas. Moi, il y a quelque chose qu'il faut m'expliquer. Quand on multiplie les erreurs, au bout d'un moment, il y a quand même quelqu'un qui paye les pots cassés. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est responsable de tout ça. Et à un moment donné, on l'écarte, tout simplement.
Ben oui.
On se pose des questions chez Ferrari, alors que les voitures sont performantes. Ce sont uniquement les erreurs de stratégie quasiment de l'équipe qui vont leur faire perdre le championnat.
C'est clair. Là, on avait pondu, j'allais dire, fabriqué une magnifique machine à gagner. D'ailleurs, le début du championnat, tu t'en souviens, il était en tête. Et puis on se disait, bon, ça y est, là, c'est la voie royale. On savait bien que, il faut rappeler que Verstappen n'avait pas marqué deux fois sur les trois premiers Grands Prix, avec des problèmes techniques, mais infiniment moindres que ceux de Ferrari, des problèmes d'alimentation en carburant qu'on a résolu. On savait bien que Verstappen allait revenir dans le coup et que l'affrontement, ça allait être entre Leclerc et Verstappen. Mais alors après, Monaco, je le rappelle comme ça, en vrac, hein, à la volée. Monaco, il est en tête du Grand Prix. À Monaco, on ne peut pas doubler. On réussit l'exploit, alors qu'il est premier avant de s'arrêter, de le faire sortir quatrième des stands. Donc là, il perd le Grand Prix, mais de manière absolument lamentable et incompréhensible. Ça, c'est la première. En Angleterre, il est en tête du Grand Prix également. Il fait le boulot, il est devant, il n'y a pas de problème. Il a quand même signé 7 pôles, hein, 7 pôles en 13 Grands Prix. Et bien là aussi, on se marche dessus. Lui, on ne l'arrête pas, alors que tous les autres s'arrêtent. Évidemment, il voit passer les trains. Il termine une nouvelle fois quatrième. Et puis, les deux les casse moteurs, on va dire, on n'est pas dans les moteurs. Mais l'Espagne, le moteur casse. L'Azerbaïdjan, le moteur casse, il est en tête. Ça commence à faire beaucoup, c'est énorme. Donc là, s'il n'y a pas une solide remise en question, et tu as raison de le dire, chez Ferrari, on y arrivera, je dis bien, jamais. On ne peut pas y arriver dans la forme actuelle. Et je pense que le ton totalement dépité de Charles est à la hauteur de la déception. Il a compris que, vraisemblablement, parce que c'est quand même des sports mécaniques, il peut se passer plein de choses, mais il ne gagnera pas, il ne remportera pas le championnat du monde 2022, alors qu'il avait la machine pour le faire, le talent pour le faire. Alors bon, maintenant, il faut déjà miser sur 2023. C'est débile, quoi. C'est insensé.
C'est vrai que ce qui se passe du côté de Ferrari, il faudra sans doute des explications, et je pense qu'on va discuter longtemps après ce Grand Prix de Hongrie et ce nouveau raté, alors que ils avaient tout pour faire un petit écart sur les Red Bull, hein, et rattraper un peu le retard.
Et je rajoute, pardon, excuse-moi,
encore,
une petite chose, c'est que en début de Grand Prix, quand il est plus rapide que Sainz, et on le voit tout de suite, enfin, ça fait 3-4 tours qu'il klaxonne derrière son équipier. C'est pas humiliant, mais il faut, chez Ferrari, qu'on réagisse en disant, bon, sur ce Grand Prix, à cette occasion-là, c'est pas terrible, laisse passer ton équipier, et au contraire, essaie de ralentir un petit peu les autres derrière. C'est le jeu. C'est comme ça qu'on gagne des courses et qu'on gagne un championnat. C'est pas honteux. Tout le monde le fait, sauf Ferrari. Pourquoi on ne donne pas la primeur à celui qui est le plus rapide à ce moment-là? Ça aussi. Donc du coup, il dégrade ses pneus. Enfin, etc. Tu vois. Après, c'est des conséquences
en cascade. Effectivement, pour Ferrari. Donc c'est un des gros enseignements de ce Grand Prix de Hongrie. Vous avez pu suivre en direct sur RMC. Il y a l'autre enseignement. Encore une fois, beaucoup de choses à dire. On l'a dit sur ce Grand Prix. Hamilton deuxième. Russell troisième, il y avait la pole de Russell, on l'a dit, qui était une pole assez incroyable. Est-ce qu'on peut être déçu chez Mercedes ou au contraire, on est satisfait là, de finir sur le podium, de mettre deux pilotes sur le podium vu de l'état de la voiture?
Ah, il faut être extrêmement satisfait. D'abord, ça matérialise une nouvelle fois la progression. On se rappelle d'où vient Mercedes. En début de saison, on va dire les 6-7 premiers Grands Prix, ils étaient quasi nulle part. Enfin, Russell était très constant, il était toujours dans le top 5. Hein. C'est étonnant la série qu'il a. Et puis, Lewis Hamilton était encore un peu perturbé, n'était pas dans le coup, la machine était difficile, elle n'était pas à son goût. Bon, il y avait Russell qui dominait assez nettement Hamilton. Et puis, les grands champions, heureusement, je touche du bois, ne meurent pas. On l'a vu revenir, la machine a énormément évolué, mais ça c'est la Formule 1, elle évolue en permanence, on apporte des nouveautés. On a petit à petit comblé une partie du retard. La Mercedes, elle est toujours pas la plus rapide, mais la preuve, avec un tour de folie de Russell, première pole de sa carrière, et d'ailleurs on souligne qu'en 2022, on est à 3 pilotes qui ont signé la pole pour la première fois de leur carrière. Sergio Perez, c'était en début de saison, Carlos Sainz qui avait gagné le Grand Prix, et celui-là, donc c'est génial, il y a du renouvellement en Formule 1, ça c'est très agréable. Et puis là, Russell qui était en pole, qui a fait un beau boulot, hein, mais Hamilton a fait un meilleur travail en partant 7e, là aussi j'aime bien donner les clés comme ça. Et bien Hamilton, on l'a arrêté au 18e tour, parti en médium, 18e tour, on lui remet des médiums. 51e tour, les softs, c'est pas compliqué, bon sang. Et avec un septuple champion du monde, déjà 103 fois vainqueur de Grand Prix, et ben ça fait une deuxième place, ça fait un nouveau podium, 5e podium de rang pour Lewis Hamilton.
Ça, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, ça veut dire que pour la suite, puisque là, il va y avoir 3 semaines hein, de repos.
4 semaines. Alors, 2 semaines obligatoires officiellement pour les ingénieurs, d'accord, où ils doivent tendre le gazon. Bon,
le 28 août, voilà, prochain Grand Prix en Belgique, dans 4 semaines, et ça veut dire que pour la fin, la deuxième partie de la saison, Mercedes, il faudra peut-être compter sur eux, non, d'après ce que tu dis?
Ah ben oui, puis alors au championnat constructeur, où là aussi il y avait un gouffre, hein, eh bien on a, bon, devant évidemment, logiquement, Red Bull, Honda, 431 points, à l'issue de ce Grand Prix où ils ont totalisé 35 points. Nous avons deuxième position la Scuderia Ferrari, mais alors l'écart se creuse, 334 points, près de 100 points de retard sur Red Bull. Et maintenant, il va falloir que la Scuderia se batte pour conserver cette deuxième position, parce que derrière, Mercedes est remontée à 304, c'est-à-dire 30 points d'écart seulement, alors qu'on sait d'où est partie Mercedes. Et là, je viens de le dire, Red Bull a totalisé 35 points dans ce Grand Prix et Mercedes 34. Ah oui. Donc ça veut dire que là, clairement, il va falloir que Ferrari se batte pour conserver la deuxième place. Et puis il y a un problème de fiabilité mécanique, je l'ai évoqué rapidement. On a déjà changé au-delà du quota de moteurs, tu sais qu'il y a de 3 et d'éléments mécaniques importants. On en est déjà à 4 chez Ferrari. Moi je vois la deuxième partie de la saison très très difficile pour eux, parce qu'ils vont avoir des problèmes de fiabilité. Et puis je te dis, c'est la double ou la triple peine. Quand tu commences à changer des éléments mécaniques en dehors du quota, tu prends des pions, tu prends des places de pénalité sur la grille, voire la totalité des places, comme on l'a déjà fait pour Charles Leclerc, c'était au Canada, tu te rends compte, très tôt, il est déjà parti dernier, et après on a fait Sainz. Enfin, je pense que l'avenir n'est pas rose du tout.
Attention, peut-être après ce Grand Prix de Hongrie, il peut y avoir du mouvement dans cette deuxième partie de championnat. On va continuer à en parler avec toi, Jean-Luc, tu vas rester avec nous. On va notamment parler aussi de la performance des Français, d'Alpine aussi, hein, qui a fait quelque chose avec la 8e place d'Alonso et la 9e d'Ocon. Mais d'abord, on va retourner à la finale de l'Euro féminin. Angleterre, Allemagne, Lulis, où on en est entre ces deux équipes à Wembley?
25e minute 0-0 toujours entre les deux formations. Beaucoup d'intensité dans ces 20 premières minutes, ça attaque des deux côtés. Hélène White a repris un très bon centre de Kirby, bien stoppé par la gardienne allemande Fromms. Les joueuses de Sarina Weigmann sont très présentes dans la surface adverse et se procurent pas mal d'occasions. Le danger côté allemand vient pour l'instant de la Lyonnaise Debritz qui est omniprésente. C'est la seule qui a frappé au but pour le moment. Et il y a quelques secondes, il y a eu un corner allemand avec un gros cafouillage là juste devant la gardienne. Et ça a finalement été sauvé par Herps.
Match indécis comme on pouvait s'y attendre. Effectivement, pour l'instant, personne n'a fait la différence. Merci beaucoup Lounis. On suit Angleterre Allemagne avec toi. Je vous dis également que Milan mène contre Marseille en match de préparation avec un but de Junior Messia marqué à la 11e minute. On joue actuellement la 22e minute de ce match de gala au Vélodrome devant 60 000 personnes. On continue de parler de Formule 1 dans un instant avec Jean-Luc Roy donc, et puis on fera un point Mercato également à une semaine de la reprise du championnat de France. Restez bien avec nous sur RMC dans l'Intégral Sport, à tout de suite.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
18h30, vous êtes sur RMC à l'écoute de l'Intégral Sport. Il se passe beaucoup de choses cet après-midi. Je vous rappelle la victoire au Tour de France Femmes. On en reparlera d'ailleurs à 19h dans le RMC Sport Show de Annemiek van Vleuten, la Hollandaise, qui remporte ce Tour de France Femmes, cette première édition, marquée notamment par un engouement populaire lors des 8 étapes. On rappelle également que pour l'instant, Marseille est menée par Milan 1-0. Match de préparation avant le début de la Ligue 1. Ce soir, 20h, ne manquez pas Paris Saint-Germain-Nantes, trophée des champions. Et puis en ce moment, Lounis, 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne. On en parlera un petit peu plus longtemps. Mais pour l'instant, toujours 0-0 entre les deux équipes à la finale de l'Euro féminin.
30 minutes, toujours 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne. Il y a eu, comme je l'ai rappelé, un petit cafouillage qui a été sauvé in extremis sur la ligne anglaise. Et depuis, les Anglaises, elles sont reparties à l'attaque. Pour l'instant, ça s'observe des deux côtés. Quand même, léger avantage pour l'Angleterre. 3 tirs à 0 pour les Anglaises côté possession. C'est l'Allemagne qui est devant, mais qui voilà est très regroupée en arrière.
C'est normal puisque l'Angleterre, et on en parlera un peu plus longuement avec toi Lounis, a marqué énormément de buts lors de cette compétition, une vingtaine de buts il me semble, alors que du côté de l'Allemagne, tu le disais en présentant cette rencontre, il manque celle qui a fait beaucoup de mal à l'équipe de France, Alexandra Popp, qui n'est pas là, qui s'est blessée à l'échauffement. Et sans doute, c'est forcément un coup dur pour cette équipe allemande. On revient sur la Formule 1, puisqu'on était en train de parler de Formule 1 avec toi, Jean-Luc. Jean-Luc Roy, qui a commenté ce Grand Prix de Hongrie en direct sur RMC. La victoire de Verstappen, on le rappelle, devant donc Hamilton et Russell. On a parlé de ces Mercedes qui pourraient être la bonne surprise pour la deuxième partie de saison. Devant Sainz, on l'a dit, Perez, Leclerc, qui ne termine que sixième. Donc ça, c'est effectivement une mauvaise nouvelle pour les Ferrari. On en a parlé. En revanche, il y a une bonne nouvelle pour Alpine. Enfin, tu vas me dire si c'est bien ou pas d'ailleurs, mais les deux pilotes sont dans les points, Alonso et Ocon.
Alors là aussi il y a deux lectures. La bonne, c'est de dire oui, les deux sont dans les points, ça fait 4
plus... prend les points.
Non, hop, mais t'as raison, ça fait 4 plus 2, ça fait 6 points. Tu sais que la bagarre est extrêmement serrée au classement c'est constructeur avec McLaren. Seulement voilà, McLaren avec un seul pilote dans les points, Norris qui est devant, il prend 6 points aussi. Donc on les renvoie dos à dos, ouais. Même si Alpine était parvenu à l'issue du Grand Prix de France à occuper cette quatrième position provisoire au classement constructeur, l'écart reste le même, hein, puisqu'on a marqué le même nombre de points. Alors, j'allais dire, oui, c'est bien, parce qu'on a les deux pilotes dans les points. Non, c'est pas très bien, parce qu'ils étaient cinquième et sixième sur la grille. Oui. Et même si Lando Norris, qui lui était quatrième, donc était devant, termine devant, on aurait aimé qu'au moins une des Alpines termine devant Norris, tu me vois venir, de manière à essayer d'accroître.
Voilà, ils avaient Verstappen derrière en même temps. Hein.
Oui. Non, mais tu as raison.
Perez était derrière aussi.
On va prendre le verre à moitié plein. On va dire qu'ils marquent encore des points tous les deux. Les deux pilotes sont dans les points. Et bon, c'est bien pour Alpine qui reste à la quatrième place du classement. Et
c'est un vrai objectif, là, pour le coup, pour la suite de la saison, pour Alpine, ce classement des constructeurs, pour ceux qui ne suivent pas forcément la Formule 1 comme toi de manière assidue. Est-ce que cette quatrième place, il faut absolument la maintenir ? C'est très important pour les constructeurs et pour un constructeur comme Alpine.
C'est extrêmement important et je vais te dire pourquoi. Il y a des millions de dollars à la clé derrière. Ah oui, alors parce que c'est comme ça que sont attribués les primes en fin de saison en fonction du classement constructeur et des points au championnat. Donc tu as bien compris que là, le fait pour Alpine de totaliser 99 points et devant McLaren 95, alors on est très loin du trio de tête dont on a parlé, hein, je répète, 431 pour Red Bull, 334 pour la Scuderia Ferrari maintenant à pratiquement 100 points, et puis Mercedes qui remonte à 304. Donc tu vois, on est à 99 derrière. Donc on est loin, mais là, on a cette bagarre pour la quatrième place. Oui, c'est très important. D'abord, il y a une question évidemment. Bah toujours, quatrième, c'est mieux que cinquième, hein, évidemment. Et puis il y a beaucoup de dollars à la clé, donc oui, c'est très important.
C'est toujours une histoire de gros sous la Formule 1.
Ah oui, bien sûr. Il faut pas se voiler la face, absolument.
Pas prêt de s'arrêter, non. Bien sûr. Les Français dans tout ça. Alors on a parlé d'Ocon, 9e place pour Ocon. Tu l'as dit, bon, il aurait pu mieux faire puisqu'il partait 5e quand même sur la grille de départ. Et Gasly, alors Gasly, une déception à nouveau pour le Français, 12e.
Alors, il est parti dernier. Il est parti des stands parce que manifestement, là, il y a un gros problème chez AlphaTauri. Il n'est pas le seul. Tsunoda non plus ne parvient pas à exploiter la monoplace. Le japonais qui termine également très très loin. Il termine 19e et avant-dernier de ce Grand Prix. Donc, alors, on va voir là aussi le côté positif. C'est que Pierre partant dernier, il termine 12e. Ouais. Bon, il a réalisé là aussi une stratégie à peu près logique et à peu près intelligente, je dirais, à deux arrêts. Il est parti en soft pour remonter très vite, ce qu'il a fait dès le début. Il s'arrête au 17e tour, il monte les médiums, qui l'emmène au 38e. Et là, il parvient à rester rapide du 38e au 70e en soft. Bon, il est récompensé. Maintenant, il termine quand même à 12 secondes du 11e, Stroll. Et donc, il est... Alors, Vettel n'est pas très loin devant Stroll non plus. Mais enfin, on va dire qu'il est à une vingtaine de secondes des points sur 70 tours, c'est quand même pas mal. Il y a encore du boulot.
Et beaucoup, ouais. Beaucoup de boulot pour ouais. Gasly et sa voiture, bien sûr. On va se projeter un petit peu, Jean-Luc, avant de te retrouver le 28 août, donc oui. Pour le Grand Prix de Belgique.
Oui.
Donc t'es tranquille pendant un mois là, tu vas partir en vacances, hein, c'est ça?
Moi, je suis toujours en vacances, moi, tu sais.
Oui, c'est vrai. En fait, ce sont des vacances pour toi.
Voilà.
Le Grand Prix de Belgique, oui. Et puis il y a une succession justement de Grands Prix qui vont être très très importants là en Europe.
Ah oui, alors déjà la Belgique, j'espère, comme je l'avais dit pour la France, que ce ne sera pas le dernier. Tu sais que ces contrats-là sont en suspens, de même que celui de Monaco. Alors autant je ne suis pas inquiet du tout pour Monaco, on va trouver un arrangement. Monaco ne peut pas disparaître, ou alors ce serait une énorme erreur, pour rester poli, de la part de la FOM et de la part de la FIA. On va conserver Monaco, qui est la vitrine absolue de la Formule 1 depuis la création du Grand Prix. En revanche, la France, eh bien, si tout va bien, on s'orienterait vers une alternance.
Belgique-France, c'est ça.
Ce serait déjà pas mal parce qu'on sauverait malgré tout les deux Grands Prix. C'est un moindre mal.
Pourtant, si
c'est
un Grand Prix mythique, hein, le Grand Prix de Belgique.
Ah mais totalement, totalement. De même que la France qui était présente au calendrier, même s'il y a eu un trou de 10 ans, mais bon, c'est revenu. Alors oui, c'est le circuit préféré des pilotes déjà. Alors je sais bien que la voix des pilotes ne compte pas dans ces cas-là, parce que là aussi, c'est une question de gros sous. Pourquoi la Belgique est en danger alors qu'on vient de faire des travaux considérables sur le circuit et qu'encore une fois, ce tracé de 7 km réjouit, mais vraiment, c'est un circuit absolument fantastique, on a vu des batailles formidables. En plus, la météo, alors là, c'est la roulette belge, hein, tu sais, à chaque fois, parce que tu peux avoir le soleil à un bout du circuit et la pluie de l'autre côté. Bref, donc c'est un circuit enthousiasmant en termes de stratégie, bien sûr, mais en termes de bagarre, avec un circuit de gros cœur, c'est un circuit rapide, etc. Mais, eh bien maintenant, il y a de plus en plus de pays qui sont prêts à mettre énormément d'argent, lire 50 millions de dollars pour entrer au calendrier du championnat du monde. Et bon, on sait déjà que la saison prochaine, il y a un troisième Grand Prix qui se déroulera aux États-Unis à Las Vegas. Ce sera au mois d'octobre. Donc on imagine que là, on a mis également le paquet. Et puis, la FOM et Liberty Media voulaient, pourquoi pas, créer un troisième Grand Prix aux États-Unis. Là, maintenant, ça y est, on aura fait le plein après Austin et Miami. Et puis, il y a plein de pays, on va dire, exotiques qui peuvent casser la tirelire. On va pas me dire que l'Azerbaïdjan a une longue tradition de sport mécanique, de même que l'Arabie Saoudite ou Bahreïn, hein. Mais bon, c'est comme ça. Ils payent très cher. Il faut bien trouver de la place dans le calendrier. On sait qu'on ira pas au-delà des 25 Grands Prix par saison. Donc, on fait le ménage. Et malheureusement, on fait le ménage avec des critères financiers.
Eh bien, on suivra donc ce Grand Prix de Belgique en espérant, comme tu l'as dit, Jean-Luc, que ça ne soit pas le dernier Grand Prix de Belgique à suivre le 28 août avec beaucoup, beaucoup d'enjeux. Vous l'avez compris si vous nous avez écoutés, sportifs, bien sûr, sur la piste.
Et puis, un triptyque, hein, Pays-Bas juste derrière et Monza juste après.
À ne pas rater, bien sûr, ça sera avec Jean-Luc à suivre sur RMC. Merci Jean-Luc.
C'est toujours un plaisir.
À très bientôt, pour nous parler Formule 1. Salut, sur RMC. À bientôt. On va reparler du foot maintenant. Je vous dis juste que Milan a marqué un deuxième but à Marseille au stade Vélodrome. But signé Olivier Giroud, qui est en grande forme dans ses matchs de préparation pour l'AC Milan. Il a déjà marqué avec une teinture blonde. C'est bien lui qui a inscrit le deuxième but pour Milan, qui mène donc 2-0 au stade Vélodrome dans ce dernier match de gala et match de préparation surtout important pour les Marseillais. Marseillais à une semaine du début du championnat de France de Ligue 1. Le foot toujours en Angleterre, à Wembley avec toi Lounis. Angleterre contre l'Allemagne, toujours aussi indécis cette rencontre, cette finale de l'Euro féminin.
0 à 0, 38e minute de jeu et White qui est passé tout près de d'ouvrir le score, une très bonne occasion. Elle a repris un centre en retrait qui est arrivé très vite. Malheureusement, c'est pour les Anglais, c'est passé juste au-dessus. Les joueuses de Marina von Stekelenburg se réveillent un peu. Elles se sont procurées deux petites occasions ces dernières minutes. Mais c'est bien les Anglaises qui maîtrisent le jeu pour l'instant. On sent qu'elles posent leur jeu dès qu'elles ont le ballon.
Alors on va parler justement de cette équipe anglaise qui a été quand même assez incroyable dans son parcours. Une équipe anglaise qui a marqué énormément de buts depuis le début de la compétition. Pour l'instant, elle est muette. Peut-être qu'il y a la pression de la finale, forcément, à Wembley. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une équipe assez spectaculaire.
Et c'est tout simplement elle qui a marqué le plus de buts, 20 buts. C'est l'équipe qui marque le plus, 7 de plus que l'Allemagne, qui est quand même deuxième. Parcours incroyable, tu l'as rappelé, au fil de la compétition, elles sont montées en puissance, 1-0 d'abord contre l'Autriche, puis 8-0 contre la Norvège. Elles se sont défaites de leur bête noire, les Espagnols, et de la Suède, quand même 4-0, pour se hisser en finale, notamment grâce à une grande Beth Mead, l'attaquante d'Arsenal, qui est co-meilleure buteuse de la compétition avec Alexandra Popp, qui est absente ce soir. Beth Mead qui compte aussi 6 passes décisives. Elle est meilleure passeuse, meilleure passeuse avec 5 passes décisives et elle est en passe de battre le record, de devenir la meilleure joueuse du tournoi. Le record était déjà détenu par une Allemande.
C'est pas grave. Mais en tout cas, 6 buts, c'est énorme pour Beth Mead, effectivement, qui est sur la pelouse, au contraire d'Alexandra Popp, tu l'as dit. C'est la grosse info de cette journée. Blessée, qui a déclaré forfait à quelques minutes de la finale. Celle qui a inscrit 2 buts contre les Françaises. Les Allemandes, qui ont eu un parcours un peu moins flamboyant. Mais on le rappelle, hein, cette demi-finale contre la France, avec donc le doublé de Popp, où elles avaient maîtrisé quand même l'équipe de France.
Et parcours tout aussi impressionnant. Elles sont sorties d'un groupe de la mort, on appelle ça comme ça dans le foot, avec l'Espagne et le Danemark qui étaient finalistes il y a 5 ans. Elles ont été bousculées par l'Autriche en quart et par nos Françaises en demi-finale. On rappelle, comme tu l'as dit, le doublé de la capitaine Alexandra Popp, la milieu de Wolfsburg, qui a éliminé notre équipe de France. Elles peuvent autant presser très haut comme se regrouper pour fermer les espaces. C'est ce qu'elles sont en train de faire là contre les Anglaises, ouais. Même si c'est un peu compliqué.
Pour l'instant, effectivement, on a l'impression que l'Allemagne essaye de tenir au maximum et que ce sont les Anglaises qui poussent. On va voir avec toi, Lounis, ce qui va se passer. On rappelle quand même que l'Allemagne a remporté 8 des 12 éditions de l'Euro, donc c'est une habituée de ces finales, alors que pour les Anglaises, eh bien, ça serait une première si elles remportaient l'Euro. Avec, on ne l'a pas dit ça à Lounis, mais à la tête de l'équipe anglaise, une certaine Sarina Wiegman, qui est tout simplement celle qui avait fait remporter l'Euro aux Pays-Bas. C'était la sélectionneuse de l'équipe des Pays-Bas qui a gagné l'Euro la dernière fois. Voilà pour ce Angleterre-Allemagne. On va suivre avec toi, bien sûr, Lounis, la fin de cette première période dans un instant. Restez bien avec nous sur RMC dans l'Intégral Sport. Dans un instant, on va faire un point aussi Mercato, puisqu'on est à une semaine de la reprise un petit peu partout en Europe et de la reprise en Ligue 1, bien évidemment. On fait un point Mercato avec Nicolas Pelletier dans un instant. Restez avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
Vous êtes sur RMC, l'Intégral Sport continue, 18h46. Dans un instant, ça sera le RMC Sport Show avec Arnaud Valadon avant à 20h le coup d'envoi du match entre le PSG et Nantes. Trophée des champions à Tel Aviv à vivre en direct et en intégralité sur RMC. C'est la mi-temps pour la finale de l'Euro féminin à Lounis.
0 à 0 entre l'Allemagne et l'Angleterre dans cette finale. L'arbitre de la rencontre vient de siffler la fin de la première période. On a vu des Anglaises qui étaient très poussées vers l'attaque, des Allemandes qui ont tenté de répondre par deux occasions, mais c'est vraiment les Anglaises qui, pour le moment, ont les actions les plus franches.
Et encore tout à faire dans cette finale très très suivie. Vous le voyez à Wembley, le stade est plein à Wembley pour suivre ce Angleterre-Allemagne, cette finale de l'Euro que l'on va continuer à suivre avec toi, Lounis. Merci beaucoup, avec Arnaud Valadon dans le RMC Sport Show. Pour l'instant, Marseille est menée 2-0 par Milan. Il reste 3 minutes à jouer en première période. 2-0, but de Messia et but de Giroud pour les Milanais au stade Vélodrome. Allez, tout de suite, on va parler Mercato sur RMC.
RMC, le Mercato Show.
Bah oui, parce qu'on est quand même à une semaine de la reprise, même si le mercato peut s'étendre bien au-delà jusqu'au début septembre. On est avec Nicolas Pelletier. Salut Nico.
Salut à tous.
On va parler justement de Marseille. Hein. Marseille qui est dans le dur pour l'instant face à Milan, dernier match de préparation, je vous le disais. Et une situation qui se tend également dans le vestiaire, Nico.
Oui, on a beaucoup parlé ces derniers jours de l'accrochage entre Gerson et Tudor, mais c'est selon la Provence, Jordan Amavi qui a aussi été écarté du groupe et qui s'entraîne à part, tout comme Kevin Strootman depuis la fin du stage en Angleterre. Le technicien croate aurait eu un accrochage avec le latéral gauche, Jordan Amavi, à la veille de la rencontre face au Betis. Reste à savoir quelle sera la décision du club pour l'avenir du joueur, mais un départ semble pratiquement obligatoire pour Jordan Amavi, qui avait été prêté à Nice la saison dernière et qui pourrait donc retrouver un nouveau club dans les prochains jours.
Effectivement, pour Marseille, pour l'instant c'est Kolasinac qui est titulaire ce soir au poste d'arrière gauche.
Excellent match.
c'est vrai Nicolas, c'est sur la c'est ce qu'on disait, hein, la lignée de la fin de saison dernière. Oui, Kolasinac, oui, c'est un joueur personnel, donc il n'y a pas beaucoup de surprises.
Vraiment dans sa lignée, hein.
la bonne lignée là du début de saison. Et c'est vrai que bon, à gauche, il y a pas grand monde. C'est Nuno Tavares qui va rejoindre, oui, le club, qui s'échauffe d'ailleurs sur la ligne de touche et qui devrait faire ses débuts. Tout comme Milik qui s'échauffe également avec l'Olympique de Marseille. Donc toi, Nico, tu viens. Non seulement Marseille est menée, et en plus, tu n'apportes pas des nouvelles du mercato, mais juste des problèmes dans les vestiaires.
Je mets des tirs.
C'est une mercato chaud, hein. C'est des infos.
Oui,
mercato.
Mais ça a une influence sur le mercato.
C'est vrai, tu as raison. Mais je ne suis pas sûr que les supporters soient très rassurés par ce que tu viens de dire. Le PSG, justement, le PSG qui joue ce soir à 20h contre Nantes, avec un dossier important dont on parle depuis le début du mercato, le dossier Milan Skriniar. On en est où de ce dossier-là?
Selon nos informations, la piste Milan Skriniar se retrouve aujourd'hui en stand-by. Les discussions avec l'Inter se poursuivent, mais le club italien, qui ne diminue pas pour le moment le montant du transfert, les dirigeants savent qu'il est difficile de trouver un autre défenseur de ce niveau sur le marché. Donc, négociation très tendue et aussi complexe par le fair play financier qui encadre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain doit dégraisser son effectif dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour être dans les clous cette saison devant l'UEFA. Et Milan Skriniar, qui est sous contrat jusqu'en 2023, avec l'Inter, pourrait ne pas arriver dans la capitale alors que c'était déjà prévu, hein. Il était très proche du Paris Saint-Germain et on rappelle, toujours à Paris, vous en avez parlé dans votre page PSG tout à l'heure, Everton est en contact régulier avec le PSG pour tenter de faire venir Idrissa Gueye sous contrat jusqu'en juin 2023. Prêt ou transfert sec, ça reste encore à décider.
Et on a entendu quelques sifflets au stade Vélodrome après la mi-temps sifflée entre Milan et Marseille au stade Vélodrome. Milan qui mène 2-0, but de Messia et de Giroud. On suivra la deuxième période avec Arnaud Valadon dans un instant. Après le PSG, on va parler de Nice. Justement, les Niçois, où le mercato tardait un peu à arriver, bien là, ils sont actifs du côté de la défense.
Oui, selon les informations de Nice Matin, l'OGC Nice suit Alex Telles, le latéral gauche de Manchester United. Le Brésilien de 29 ans, qui est sous contrat jusqu'en 2024, souhaite disputer la Coupe du Monde au Qatar avec la CLSAO. Et pour réussir son défi, l'ancien joueur de Porto a besoin de retrouver un large temps de jeu cette saison. Ça pourrait être du côté de Nice, Manchester United envisage un prêt pour le joueur. Et autre nouvelle à Nice, ça c'est pratiquement fait, l'OGC Nice qui aurait trouvé un accord avec Empoli pour le transfert du défenseur italien Mattia Vitti. Les Aiglons pourraient débourser 15 millions d'euros pour le joueur de 20 ans.
Ah oui, ils y croient vraiment à Vitti, qui est pourtant tout jeune et qui ne vient pas d'un grand club. Je pense que les supporters de Nice attendent un autre mercato après l'arrivée de Lucien Favre. Mais bon, ce sont des paris peut-être sur l'avenir qui
pourraient fonctionner. Avec la jeunesse, Lucien Favre, ça peut marcher,
effectivement. On va voir du côté de Lille ce qui se passe, puisque Lille vise un milieu de Nantes, tiens, qui va jouer ce soir contre le PSG normalement.
Oui, Lille qui a recruté Bayo, qui a recruté Cabella à la intersaison avec cette belle saison. Le milieu offensif du FC Nantes, Ludovic Blas, dispose d'un bon de sortie sur ce mercato, mais il faut avoir une belle proposition en face pour le FC Nantes pour le laisser partir. Et d'après les informations du Guardian, Lille a entamé les négociations pour recruter l'ancien Guingampais de 24 ans. L'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a validé le profil du joueur et les deux formations sont actuellement en négociation pour trouver un terrain d'entente sous contrat jusqu'en 2024 avec les Canaries. Blas risque d'être un transfert supérieur à 15 millions d'euros pour les Canaries. Reste à savoir si Lille est prêt à débourser 15 millions d'euros pour Blas.
Alors, n'hésitez pas, hashtag RMC Live si vous êtes d'accord ou pas, mais je serais surpris de voir Blas quitter un club qui va jouer l'Europe pour un club qui ne jouera pas l'Europe. Mais bon, il y a d'autres. Peut-être que Lille, c'est une marche au-dessus de Nantes, je ne sais pas. Mais
oui, peut-être.
Bon. Pas forcément le cas pour Blas qui a fait une très très belle saison
pas avec sur cette saison, mais peut-être sur un, oui, oui, un plan de carrière,
pas.
Ça peut être, ça
peut être super, peut-être avec Fonseca en tant qu'entraîneur, ça a peut-être intéressé le joueur. On va parler un peu de l'étranger également avec Wesley Fofana, qui est un Français qui pourrait rejoindre Chelsea.
Oui, d'après les informations de l'équipe, le Wesley Fofana, le défenseur de Leicester, n'est pas insensible à l'intérêt de Chelsea. Le joueur de 21 ans ambitionne d'être sélectionné pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Il pourrait ainsi disputer la Ligue des Champions, là où Leicester n'est pas qualifié. L'équipe de Thomas Tuchel a échoué dans le dossier Koundé qui a signé au Barça. Il pourrait donc se rattraper avec l'ancien de la SSE. La SSE l'avait vendu 35 millions d'euros. Ils estiment là le prix du transfert entre 80 et 85 millions d'euros. Mmh. Donc 30 millions d'euros en plus. Non, je dis des conneries. 40 millions d'euros en plus.
Mais c'est pas la première fois.
Il est sous contrat jusqu'en 2027 avec Leicester.
Bon, après Chelsea et Fofana, on va parler de Braithwaite qui ne devrait pas s'éterniser au Barça. Braithwaite, oui. Ancien Toulousain.
Oui, bah oui, d'après les informations du quotidien catalan Sport, Martin Braithwaite devrait très bientôt résilier son contrat avec le Barça. L'attaquant danois est lié au club jusqu'en 2024, mais il sait très bien qu'il n'aura pas un très gros temps de jeu cette saison en Catalogne. Il aurait été approché par Getafe et le Rayo Vallecano en Espagne pour une signature dès ce mercato estival.
Ah, ça pourrait faire les affaires d'un club de Ligue 1, Braithwaite, pourquoi pas. Oui. Je l'ai pas vu jouer depuis longtemps, mais
retour à Toulouse.
pourquoi pas. Et puis enfin une dernière info concernant l'Italie avec le joueur de la Juve, Arthur, qui pourrait rejoindre l'Espagne.
Oui, poussé vers la sortie sur ce mercato d'été, le milieu de terrain de la Juve, Arthur, va normalement rejoindre Valence dans les prochains jours, d'après les informations de Sky Sports. Les deux équipes sont proches de trouver un accord pour le transfert du Brésilien avant le début de la semaine prochaine. Cette nouvelle devrait surtout permettre à la Juve de libérer un très gros salaire et de dégraisser son effectif avant peut-être l'arrivée d'un nouveau joueur. On parle beaucoup de Paredes en Italie.
Ah, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, du côté de la Juve, il y a quand même le problème Paul Pogba qui se pose, qui pourrait être indisponible.
Il peut aussi avoir une influence sur Rabiot.
Rabiot, qui devait quitter peut-être l'Italie.
Et qui pourrait rester à la Juve après la blessure de Paul Pogba.
Et qui pourrait finalement effectivement rester à la Juve.
D'ailleurs, c'est une semaine importante pour Paul Pogba qui va être...
Ah oui,
qui va être ausculté par les médecins.
Il va devoir choisir effectivement quelle opération.
Et c'est très important en vue du Mondial 2022.
Et on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, parce que c'est un choix que va devoir faire Paul Pogba. Et peut-être qu'il a appelé Didier Deschamps, sans doute, avant de faire ce choix-là. C'est important aussi, bien sûr, puisque c'est un des cadres de cette équipe de France. 18h55 sur RMC. Dans un instant, c'est le RMC Sport Show avec Arnaud Valadon. On va revenir, bien sûr, sur toute l'actualité sport de cette journée. Ce soir, 20h, ne manquez pas, Paris Saint-Germain-Nantes, finale. Pas finale, mais trophée des champions entre donc le champion de France en titre, le PSG, et le vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes. C'est à suivre à 20h donc sur RMC. Et puis vous suivrez bien sûr la suite d'Angleterre-Allemagne, finale de l'Euro féminin avec Arnaud Valadon. Bah, tiens, on peut le saluer, Arnaud. Salut Arnaud.
Salut François, salut tout le monde. Oui, le RMC Sport Show qui arrive avec Olivier Giraud. Un beau programme puisque on va revenir sur le Tour de France femmes. Elles sont arrivées après 8 jours de course. On aura Evita Music, 23 ans, une Française qui est promise un très bel avenir. Elle est promise un très bel avenir. Et puis, présentation du Trophée des Champions avec les compositions qui devraient tomber pour ce premier match officiel du Paris Saint-Germain et du FC Nantes, et un premier trophée en jeu à Tel Aviv en Israël. On retrouvera tout de suite nos correspondants Timothée Mémon et Arthur Perrault, et puis également la Formule 1. Il est resté dans le studio Jean-Luc Roy pour faire un bilan après ce Grand Prix de Hongrie, et puis surtout la F1 qui va être en mode pause 4 semaines sans Grand Prix, la fameuse pause du mois d'été, et déjà peut-être un championnat déjà plié.
Jean-Luc est en vacances là, ça y est.
Il lui reste encore une petite demi-heure
après pour l'avion. Bonne soirée à tous sur RMC avec le RMC Sport Show tout de suite.